I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur L'Aléa, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour déconstruire la vision traditionnelle du risque et montrer ses effets positifs dans nos vies. Tous les 15 jours, j'invite des hommes et des femmes qui viendront vous donner les clés et les outils pour devenir pleinement la personne que vous devez être en prenant les risques nécessaires. Je le répète souvent, mais croyez-moi, c'est la solution pour aider et inspirer le plus grand nombre. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcasts ou iTunes et ou partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance. Petite news, pour les passionnés de podcasts qui rêveraient de créer le leur, j'ai imaginé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Dans cette formation, vous trouverez le nécessaire pour créer votre podcast et votre identité de marque. Le lien est dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, je suis avec Priscilla Routier-Triard. Priscilla, tu es la fondatrice de l'application Join the Sorority, qui est la première application bienveillante de protection, d'entraide et de partage entre toutes les femmes et les personnes issues de minorités de genre. Cette application a été conçue pour que la sécurité des femmes et des minorités de genre soit assurée, que les féminicides cessent, que les harcèlements prennent fin, que l'on mette un terme aux agressions et violences sexuelles en tout genre, que les inégalités se réduisent, que la charge mentale, le plafond de verre ou encore le syndrome de l'imposteur s'effacent petit à petit, que la confiance en soi et la prise d'initiative animent aujourd'hui chaque femme et personne issue des minorités de genre, qu'on ose réaliser nos rêves, entreprendre et s'épanouir pleinement, que l'on exploite enfin notre plein potentiel. Cette application est mise à la disposition de toutes, accessible à tout moment, partout, gratuitement. Hello Priscilla.
Coucou Laura.
Je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui.
Pareil.
Première question, très simple. Comment tu vas ?
Mais je te remercie de la poser.
Ça va.
Un peu stressée dans cette période de crowdfunding, mais ça va.
Ouais, tu vas nous en parler justement. Vous en êtes à combien là dans le crowdfunding ?
Plus de 11 000 euros, je crois.
Top, bravo. J'ai envie de commencer par une phrase qui revient souvent sur ton compte Instagram et qui me parle particulièrement, puisque le sujet de mon podcast, c'est le risque, mais aussi beaucoup la gestion de la peur. Et c'est la phrase, c'est « là où il y a de la peur, il y a du pouvoir ». Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il y a derrière cette phrase ?
Cette phrase, je l'ai lue quand j'ai lu le livre d'Odile Chabriac, Âme de sorcière. Et elle m'a vraiment marquée. Et en fait, pour moi, elle renferme exactement tout l'esprit, notamment d'une aventure entrepreneuriale et de tout ce que tu entreprends dans la vie. Là, en fait, où tu sens que tu as ce sentiment de peur qui monte et qui arrive, clairement, c'est là qu'il faut te jeter. Donc, c'est l'angoisse, c'est l'enfer, par exemple, faire des lives. Et en fait, c'est en te jetant en gros dans la gueule du loup et en dépassant cette peur-là, que tu vas commencer à cranter et aller plus loin et prendre du pouvoir et petit à petit t'émanciper et avoir le courage et la force de faire encore plus de choses. Donc vraiment pour moi c'est une peur, c'est vraiment une porte d'entrée vers un après. Quand tu as identifié une peur, bon il y en a qui ne servent à rien, il ne faut vraiment pas y aller, qui peuvent être dangereuses pour toi, mais... Si tu évalues vraiment le risque que tu as derrière cette peur et par rapport à ce que tu peux gagner après en la dépassant, vas-y. Et ce qui aide beaucoup aussi à dépasser ces peurs, c'est t'imaginer, c'est des techniques qu'on applique souvent, c'est t'imaginer qu'est-ce qui peut t'arriver de pire si tu le faisais. Concrètement, est-ce que ta vie est mise en danger ? Non, elle n'est pas mise en danger. Donc vas-y, tu n'as rien à perdre. Et au pire, tu as quoi ? Enfin, tu vas apprendre, quoi qu'il arrive. Donc, vas-y, dépasse cette peur et va plus loin.
Super, hyper intéressant, merci beaucoup. Donc, tu as créé l'application Jeune The Sorority.
Oui, avec mon équipe. Donc, on est 4 au total, Fanny, Thibaut, Adrien et moi-même.
Génial. Et donc, c'est, je te cite, mais pour que les gens qui nous écoutent, s'ils ne te connaissent pas, le découvrent, qui est la première application bienveillante de protection, d'entraide et de partage entre toutes les femmes et les personnes issues des minorités de genre.
Donc, je vais t'expliquer pour te répondre à qui est ouverte l'application. Donc, elle est ouverte, comme tu le dis, à toutes les femmes et personnes issues de minorités de genre et donc pas aux hommes cis. Donc, homme né homme et vécu homme. Du coup, donc l'application n'est pas faite contre les hommes, mais pour les femmes et personnes issues des minorités de genre. Pourquoi ? Parce que les critères en fait d'acceptation sur l'application, ça va être est-ce que tu estimes que tu as eu un vécu en tant que femme dans ta vie ? Oui, non. À n'importe quel moment de ta vie, oui, non. Si oui, dans ce cas-là, tu sais exactement de quoi il s'agit. Tu as déjà fait face au harcèlement, notamment de rue. Tu as fait face à différents types de violences verbales, physiques, potentiellement sexuel, tu as forcément vécu une de ces scènes dans ta vie. Quand j'expliquais en fait le concept de l'application au tout début, quand on a lancé officiellement sur les réseaux en octobre 2019, je pitchais en fait à des copains hommes ou à des hommes en général, je mettais 20 minutes à leur expliquer et la question d'après c'était « et ton business plan ?» etc. Donc des questions très concrètes. Je pitchais à peine 20 secondes à une femme, directement elle tiltait, elle avait les yeux qui s'écarquillaient et elle me disait « c'est un truc de ouf ». Donc, tu as eu un vécu en tant que femme, tu sais ce que c'est. Et j'avais vu là-dessus, juste pour, si tu veux, si les personnes qui nous écoutent veulent regarder, une vidéo qui a été faite par Ni pute ni soumise, que j'ai trouvée complètement dingue. Elles ont pris un comédien, elles l'ont déguisé en femme et elles l'ont mis dans la rue pendant une journée. Et du coup, il a vécu pendant une journée ce à quoi on était confrontés. À la fin de la journée, le mec, il a dit « mais je n'aurais jamais pensé de ma vie ». Et en fait, limite, j'aimerais que dans le monde, il y ait des stages de « vie ma vie de femme » juste une fois dans ta vie, ou du moins avoir une apparence qui est identifiée comme étant femme, et de pouvoir se rendre compte. Et je pense qu'il y aurait déjà beaucoup moins de mecs, en l'occurrence, qui essaieraient de nous dire « non, mais ça va, c'était pas si grave, non, mais c'est bon, c'était pour te faire plaisir, c'était pour te faire un compliment ». Non, quand tu le vis, quand tu es dans la peau d'une personne qui le vit, en fait, tu joues plus. Tu comprends ce que c'est et tu n'as plus envie d'y aller. Donc voilà, avoir ce vécu en tant que femme, pour te répondre, avoir la volonté d'aider, parce qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément envie d'aider et c'est un engagement de venir sur l'application parce qu'en fait, tu te confrontes à ce que j'ai déjà expliqué dans d'autres interviews, l'effet de sidération. Quand tu vois une personne qui se fait agresser dans la rue, ton cerveau freeze parce que clairement, il est en train de te protéger par rapport à ce que tu es en train de voir. Il n'est pas prêt à faire face à ça. Et du coup, il freeze, il se bloque. Et c'est pour ça qu'après, tu dis « mais pourquoi j'ai pas dit ça ?» Enfin, voir quelqu'un se faire agresser dans la rue ou être insulté ou faire face à une menace vers toi ou vis-à-vis quelqu'un d'autre. Et après que ce soit passé, tu dis « mais pourquoi j'ai pas fait ça ? Pourquoi j'ai pas réagi ? Pourquoi j'ai pas dit ça ?» etc. Et ça s'appelle l'effet de sidération. Concrètement, sur l'application, on recrée cet effet de sidération aussi parce qu'on va avoir une alerte qui va dire la personne qui attend de mettre de toi est en train de se faire agresser. Et du coup, cette responsabilité, oui, est partagée avec les autres utilisatrices autour d'elle qui vont recevoir, mais elle est aussi sur tes épaules. Et du coup, tu dois faire face à ça. Tu as vraiment ce stress qui arrive. Donc, deuxième critère, c'est vraiment avoir la volonté d'aider et être aidé. C'est du donnant-donnant. C'est vraiment de la confiance, bienveillance, entraide, partage entre les personnes. C'est un vrai lien qu'on crée, mais il faut savoir aussi qu'il faut être prêt et prête à agir en conséquence. Et la dernière, la dernière raison de venir sur l'application, enfin la volonté qu'il faut avoir pour venir sur l'application, c'est être bienveillante. Être bienveillant, bienveillant. Concrètement, c'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut avoir parce qu'on est sur vraiment une communauté de confiance. Déjà, pour arriver sur l'application, il faut mettre un selfie en temps réel. Donc, ne pas avoir peur. Mettre sa pièce d'identité
sur l'application.
Voilà. Et pourquoi on demande ça? C'est pas du tout pour récupérer des informations et les revendre ou quoi que ce soit. Absolument pas. Avant, j'étais responsable RGPD. Donc, toutes les personnes qui nous écoutent, n'ayez pas peur. Je sais de quoi il s'agit. Et niveau RGPD, on est très, très loin. Très, très, très loin. Toutes les informations sont supprimées des validations du profil ou refus du profil sur l'application. Donc, il n'y a pas de souci dessus. Mais c'est tout simplement pour s'assurer que la personne qui vient sur l'application est bien la personne qui en fait la demande. C'est-à-dire que le selfie en temps réel, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas juste prendre une photo d'une photo parce qu'on le voit. En fait, sur la demande, on le voit. Et la carte d'identité, déjà, responsabilise un peu plus la personne. Et quoi qu'il arrive, on peut faire le match comme ça. On voit sur les photos, on voit que les personnes se ressemblent. Et du coup, on fait ce matching entre toutes les informations qu'il y a quand tu t'inscris sur l'application, donc le selfie en temps réel, la carte d'identité, enfin la pièce d'identité, nom, prénom, l'adresse email aussi, on regarde, donc on regarde plein d'informations. Si on a un doute, on demande à la personne de venir sur les réseaux sociaux pour vérifier qu'il s'agit bien de la personne. Un réseau social ne peut pas être faké. Concrètement, tu as un historique, tu vois les groupes qui sont suivis, tu vois, tu ne peux pas mentir sur un réseau social. Et une fois que c'est OK, la personne arrive sur l'application. Pourquoi on fait tous ces checks ? Concrètement, ça revient à ta question principale qui était il y a très longtemps, mais je la reprends. Parce qu'on s'assure du coup qu'il n'y a pas d'homicide sur l'application, parce qu'on ne peut pas, on peut pas prendre le risque en fait qu'un conjoint violent, ex-conjoint violent ou harceleur vienne sur l'application. Donc ce n'est pas contre les hommes, c'est juste pour les femmes et les personnes issues des minorités de genre, parce qu'on a besoin de cet espace bienveillant, cocooning, d'entraide, de confiance, de... qui se comprend, qui sait de quoi elle s'agit, où il n'y a pas besoin de se justifier, d'expliquer, de prouver quoi que ce soit. En fait, on sait. Donc voilà, c'est vraiment cet espace qu'on fait vraiment transpirer dans toute l'application, sur nos visuels, sur notre communication, sur tout ce qu'on fait. C'est vraiment un espace cocooning pour nous où la bienveillance est le maître mot.
Super. Avant de revenir justement sur cette application, ton déclic pour la créer, justement cet univers visuel et graphique, j'ai envie de revenir sur ton enfance, parce que c'est ce que je fais beaucoup dans le podcast. Et toi, tu sembles avoir une détermination presque sans limite. Tu as ce côté aussi féministe, forcément. J'ai envie de savoir déjà quel enfant tu étais, quel genre d'enfant tu étais. Est-ce que tu avais déjà cette détermination dans ce que tu entreprenais? Et ensuite, si tu étais féministe finalement, si tu avais cette sensibilité par rapport aux femmes, ou c'est venu après, plus tard dans ta vie?
Je pense que depuis que je suis petite, je sais que je veux faire quelque chose qui a un impact et mener un projet vraiment qui a du sens pour moi. J'ai fait de burn-out, donc la perte de sens, la volonté de faire quelque chose qui puisse aider et avoir des résultats concrets, clairement je l'ai en moi et j'en ai beaucoup souffert. J'ai toujours été la très bonne élève parce que mon parcours fait que j'ai dû me battre, faire mes preuves et toujours chercher en fait l'approbation des gens, vouloir faire plus, vouloir plaire. De par mon histoire familiale, j'ai dû y aller, quoi, j'ai dû me battre. Et du coup, je pense que tout ça, je l'avais en moi. J'ai jamais passé le pas, et c'est grâce à ce deuxième burn-out où clairement, je suis tellement arrivée à un stade de chaos et de rien. Que toutes les portes se sont ouvertes dans ma tête. J'ai été suivie par ma médecin traitant qui m'a arrêtée, qui a été très bienveillante avec moi et qui m'a clairement dit « je suis là, je vais te protéger ».
Comme là, t'es allée un petit peu vite. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait des burn-out, dans quel contexte?
Alors, mon premier burn-out était en 2013 et c'était mon premier job et je me suis beaucoup investie dans ce job parce que c'était assez élitiste, entre guillemets, dans le sens où si on n'avait pas fait prépa, on passait pas. C'était le leitmotiv, tu fais pas prépa, tu passes pas. Donc, j'avais fait prépa, tant mieux. Mais j'ai fait une école de commerce moyenne, c'est pas très beau à dire, mais j'avais pas fait les trois premières ou cinq premières. Et du coup, j'ai été embauchée à un salaire avec cette fameuse grille de salaire qui est juste improbable. J'ai été embauchée avec un salaire qui était bas, mais je me suis battue, j'étais très contente d'avoir ce job-là. Et il s'avère que trois ans plus tard, je me suis rendu compte que je formais des personnes qui étaient payées 10K de plus que moi, qui ne connaissaient absolument rien et qui arrivaient sur le marché du travail. Moi, j'avais déjà automatisé énormément de choses et beaucoup, je m'étais vraiment investie dans la boîte. Et j'étais toujours payée 10K de moins que ces personnes-là. Et là, dans mon cerveau, ça n'était pas possible, en fait, de continuer comme ça. Et donc, pendant 6 mois, je ne savais pas ce que j'avais. Donc, le matin, tu te lèves, tu pleures, tu t'es déprimée, tu as une perte de sens complète, tu es énervée au fond de toi, tu as le feu. C'est vraiment le mot, c'est le feu. Tu te consumes de l'intérieur. Et ça en est devenu physique. Donc j'ai fait une fibroscopie pour savoir ce que j'avais. J'avais une hernie hiatale qui commençait à arriver. Donc mon corps commençait à prendre le relais dessus. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Et je m'en suis sortie en quittant ce job, tout simplement. Dans la semaine, tout est parti. Mais j'ai toujours maintenant cette chose en moi. Et je sais que c'est à
vie. Ça revient, c'est que ça va pas.
Exactement. Toutes les personnes qui ont fait un burn-out, je pense, ont cette flamme au fond d'elles qui peut se réactiver à n'importe quel moment.
Tu penses que le corps est vraiment lié à l'esprit par rapport à ça?
Ah,
et que le corps
complètement. C'est pour ça que maintenant je fais de la naturo et on en parlera plus tard, mais complètement. Et le deuxième,
ça sera l'objet d'un deuxième podcast.
Avec plaisir. Et le deuxième, c'était mars 2019. Du coup, schéma différent, c'était pas pour l'argent cette fois-ci, c'était question d'investissement et de confiance. J'étais arrivée numéro 2 d'une société qui faisait partie d'un grand groupe, enfin qui fait partie d'un grand groupe. Et je me suis beaucoup investie dans ce boulot. Le rythme était intense. Je faisais tout pour les équipes. J'avais les mains dedans. Et j'ai un call avec mon responsable à ce moment-là. Attends, là, tu vas avoir l'exclusivité. Et je vois que ça traîne. Et les réponses sont assez vagues et assez détachées. À un moment, je lui dis directement, en fait, t'en as rien à foutre de ce que je suis en train de te dire. Et la personne me répond non. Et là, tout s'arrête. Là, dans mon cerveau, tout s'arrête. Et ça a été les semaines. Ouais. Les semaines qui ont suivi, c'était la descente. Et ma hernie a explosé limite immédiatement. Enfin, ça a été. Déjà, je sentais que ça commençait à chauffer.
Ça revenait.
Et arrive ce qui devait arriver. Au final, je finis par aller voir mon médecin traitant. Je ne m'étais jamais fait arrêter de ma vie parce que. Les gens qui font des burn-out ne sont pas du tout des gens qui...
Non, et puis parce qu'on nous apprend aussi que finalement, quand on s'arrête, c'est de la faiblesse, des conneries comme ça.
Les gens qui font des burn-out ne sont pas des gens faibles. C'est des gens qui se surinvestissent et qui donnent tout pour...
au contraire.
Au contraire. Et du coup, je me fais arrêter, donc je le vis hyper mal. Donc là, pendant une semaine, je me sens comme une merde. Hein. Je me dis, mais moi, je me fais arrêter. Enfin, niveau égo, c'était bien. Et deuxième semaine, donc en fait, t'es arrêté pendant deux semaines quand t'es arrêté par un médecin traitant. Et deuxième semaine, je me dis, mais je peux plus y retourner. Enfin, je me suis tellement épuisée, j'ai tout donné, je veux plus, j'y arrive plus. Et du coup, je retourne chez la médecin à la fin de ces deux semaines-là. Et là, je suis à la limite en train de trembler en parlant. Je pleure. Enfin, c'est l'enfer. Et là, elle me dit, donc ce que je dis tout à l'heure, je te crois. Le burn-out est une maladie réelle. Je suis là pour toi. Je vais te protéger. Et quoi qu'il arrive, tu ne retourneras pas.
Ça me fait des frissons ce qu'elle t'a dit. C'est ouf.
Mais c'était vrai. C'était. Et là. Là, en fait, elle m'a débloqué un monstre dans ma tête. Et je me dis, mais la bienveillance humaine est juste sans limite. Il faut juste que tout le monde le sache. Pourquoi on ne nous l'inculque pas ? Pourquoi ce n'est pas le premier truc qu'on nous dit, quoi ? Et je me dis, mais il faut que tout le monde le sache. Comme une babouche, je me dis, mais il faut que tout le monde le sache. Et je sors du cabinet. Et là, le mot sororité m'arrive en tête. Donc maintenant, sororité à Delphité. Mais le mot sororité m'arrive en tête parce que je lisais du coup le livre Âme de sorcière de Dilcha Briac. Et je pense que je le lisais de façon inconsciente. Et je vais reparler du coup de la question du féminisme que tu m'as posée tout à l'heure. Et ce mot arrive et je me dis, mais en fait, c'est ça. Enfin, on a un lien hyper puissant qui est entre nous.
Est-ce que tu peux justement pour nous expliquer pour ceux, par exemple, qui nous écoutent et qui savent pas, qui ne connaissent pas ce mot. Moi, je sais que je l'ai découvert il y a peut-être 2-3 ans, mais c'est vrai qu'avant, je connaissais pas ce que c'est la sororité.
La sororité, c'est la solidarité entre femmes. Et à Delphité, sororité entre, il y a plus de notion femme ou homme. C'est vraiment frère, sœur. C'est en anglais, on dit siblings. Il n'y a pas de sexe là-dessus. Donc c'est vraiment cette entraide, cette bienveillance et cette solidarité qu'il y a. Et je me dis, mais c'est exactement là. Et là, plein de scènes en fait me remontent, notamment dans ma vie professionnelle où t'as une réunion, t'as des réflexions de merde. La façon dont t'es habillée, tout le temps jugée. Si t'es énervée, on te demande si t'as pas tes règles, alors que ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en fait, le taf c'est de la merde ou la personne a dit de la merde. Enfin, je dis plein de gros mots dans ton podcast. Et je me dis, mais putain, on serait bienveillants et bienveillantes les uns avec les autres. Et dans toutes ces situations, en fait, on serait plus solidaires. Mais ça se changerait tellement. Enfin, on serait dans une salle de réunion. Moi, ça m'est arrivé. Salle de réunion, il y a 40 personnes, deux femmes. Et là, tu as un mec qui te prend à partie et qui te pose une question absolument personnelle devant tout le monde. Tous les mecs vont se mettre à rigoler bêtement. Il y a même des nanas qui peuvent se mettre à rigoler bêtement parce que c'est l'effet de groupe, on y va, mode hyène. Et toi, tu regardes le truc et tu te dis, mais c'est quoi le délire ? Et il n'y a pas une personne
qui réagit
ou qui va dire, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est sexiste, c'est blessant, c'est méchant, personne n'oserait te le dire. Et là, tu es juste en train de tout reposer sur cette personne-là, elle ne l'a pas mérité. Ce que tu fais humainement, c'est lâche et c'est nul. Là, tu l'as blessé profondément. Il y a une personne qui dirait, tu viens de la blesser, mais jamais recommencerait. Elle aurait tellement honte devant tout le monde et les gens arrêteraient de rigoler. Mais il y a cette espèce d'esprit qu'on continue à faire vivre. Et en fait, c'est la première idée qui m'arrive. Je fais, mais il faut qu'on soit bienveillants et solidaires les uns avec les autres. Et c'est les premiers souvenirs qui sont arrivés dans ma tête. Et après, il y en a plein qui sont revenus. Et je me dis, mais il faut qu'on ait un moyen de s'activer et de nous lier entre nous. Et donc, il se passe cette première prise de conscience où le mot sororité m'arrive ce jour-là. Le lendemain, je prends le métro. Et là, je vois physiquement toutes les femmes, en l'occurrence, dans la rame de métro, les unes à côté des autres. Et je me dis, mais mon idée va bien plus loin, en fait. On est vraiment toutes connectées. Et si je savais que la personne au bout de la rame de métro est en train de se faire agresser, je sais ce que c'est, j'ai qu'une envie, c'est d'intervenir, c'est de faire semblant de la connaître, inverser cet effet de sidération, que ce soit l'agresseur en fait qui vive cet effet, genre bah, attends, elle connaît quelqu'un, mais c'est pas logique, et du coup son cerveau frise et il s'arrête de faire les choses. Tu peux pas continuer d'agresser quelqu'un quand une personne connaît cette personne-là. Mmh. Donc je dis, mais j'ai qu'une envie, c'est d'intervenir, de faire semblant de la connaître, d'engager la discussion, même un truc anodin, genre hey, comment ça va, la meuf est en train de se faire tripoter,
ça déstabilise.
Mais oui, mmh. Mec, mais il se passe quoi, c'est pas possible. Et du coup je me dis, mais il faut tellement un outil en fait concret qui permette de nous lier et savoir qu'en fait toutes ces situations là on les vit et on est là les unes à côté des autres et on a ce truc en nous, on a cette flamme qui fait qu'on a vraiment envie de l'activer et de s'entraider. Et quand j'ai commencé à faire mes recherches dessus, je me suis dit, mais on prend aussi le problème à l'envers, on fait que dire qu'est-ce que fait l'État. À l'époque, en 2019, c'était Emmanuel Macron, on t'attend.
Ouais, on attend des réponses du gouvernement, alors que c'est à nous d'agir.
Et je me dis, le problème finalement est pris à l'envers, en fait. C'est une fois que les faits sont commis, donc une fois que tu t'es bien fait agresser, que tu as tous les traumatismes en toi, qu'il va falloir que tu expliques, que tu fasses les démarches, que tu prouves, que tu trouves des preuves, qu'on te croit. C'est à toi de gérer les choses. Mais non, en fait, c'est pas ça. Faut juste que ça se passe pas, parce que ça doit pas se passer. On doit pas vivre ces choses-là. C'est pas normal. Et on est tous les uns à côté des autres, les unes à côté des autres. On est hyper liés. Enfin, si la personne à côté de moi déjà agissait, ça n'aurait même pas lieu. On n'aurait pas à parler du reste. Et ça ne doit pas se passer. Et du coup, là, je me dis, mais donc il faut cet outil concret. Qu'est-ce qu'on fait? Et mais ça me, du coup, ça me consommait vraiment de l'intérieur. Pour le coup, j'étais omnibulée par ça. Et je me suis dit, bah, on a toutes un téléphone entre les mains. Et là, je me suis dit, une app, et là, mais là, l'enfer, parce que c'est cliché, ça coûte hyper cher, tout le monde fait des apps, va dire à tes potes ou ta famille que tu vas faire une app, les gens, ils te regardent, genre, mais putain, mais elle est en train de péter un plomb, dans quoi elle s'engage, et puis, ouais, c'est énorme à faire. Mais je lâche pas le truc. Et du coup, petit à petit, je pense que je réponds à tes questions suivantes, mais je vais continuer. petit à petit, je monte mon équipe, donc je me dis que j'ai pas envie de coder, que j'ai pas envie de faire du graphisme, et je propose à une amie de faire mon logo. Au final, j'ai beaucoup plus loin, et je lui propose carrément de s'associer à moi, et de vraiment créer tout cet univers bienveillant autour de l'appli, parce que je veux qu'on se sente bien dessus, que ce soit une expérience complète qu'on vit. Et il me faut un développeur. Je passe des entretiens avec des agences digitales qui m'annoncent 100 000 euros, que je n'ai pas. Et par contre, je les pitch en fait que sur les fonctions. Je ne leur dis pas de quoi il s'agit, parce que je voulais encore... Je n'ai toujours pas répondu à la question du féminisme, mais je vais y arriver. Je voulais pas commencer à parler dessus. Je voulais vraiment, moi, bien me faire mon idée. Et je ne me considérais pas comme féministe à l'époque, donc j'avais besoin de faire ce cheminement-là. Et j'en reparlerai. Et du coup, via ces entretiens, je réussis à choper la techno qu'il faut, qui est la techno React utilisée par Facebook pour développer iOS et Android en même temps. Et en fait, ça va être ma porte d'entrée pour trouver mes développeurs. Et ce que je fais, c'est que je continue à tout baser sur l'humain, la bienveillance. Je me dis, on est tellement liés, ça peut que... En émettant des demandes au fur et à mesure, tu attires au final les gens qui peuvent y répondre. Et j'en parle partout autour de moi. Et au final, c'est ma sœur qui en parle à son copain, qui en parle à un autre copain. Il y a 6 personnes entre moi, du coup, et Thibaut, mon CTO. Et donc, il y a 6 personnes entre toi et le président de la République. Il y a 6 personnes entre toi et
ton reliés, CTO. Ouais, on est tous reliés, ouais, par 6 personnes.
Et du coup, je prends ma voiture, j'y vais, je le pitch. Et là, je te la fais courte. En gros, il me dit oui, OK pour la presta. Mais je repars en me disant, j'ai vraiment confiance en lui. Il s'est passé quelque chose. Je veux vraiment lui proposer que ce soit un bébé qu'on partage. Je le pitch, du coup, sur l'idée. Il me dit, c'est ouf. Et du coup, j'ai mon CTO Thibaut qui a départ. Fanny, ma graphiste, qui a des parts, et Adrien qui nous rejoint par la suite, qui va avoir des parts. Adrien, si tu m'écoutes, je te promets, ça arrive. Et du coup, qui arrive, et on a 2 développeurs, et une graphiste et moi-même.
D'accord. Et du coup, en effet, ouais, tu as répondu à pas mal de questions.
Et la question du féminisme, du coup, non, je ne me considérais pas du tout comme féministe, parce qu'il s'est passé plein de scènes comme ça dans les différents jobs que j'ai faits, dans des startups ou des gros groupes, c'est dans toutes les entreprises, ça se passe. Et à chaque fois, en fait, je faisais partie de la team, je vais dire un gros mot, la connasse de base qui rigolait avec les mecs sont mes potes. Enfin, je suis vraiment tout le temps entourée d'hommes et je faisais moi-même les blagues et j'étais « Ah, mais tu vas pas te la taper ou tu vas pas faire ça ?» Enfin, tous ces trucs, mais hyper,
ouais,
trash,
hyper, ouais.
J'y allais. Et en fait, quand j'ai eu cette prise de conscience, je me suis dit « Mais t'es le problème. » En fait, on est toutes et tous le problème. C'est tellement ancré en nous. Là, t'es en train d'avoir une prise de conscience, mais regarde tout ce que t'as fait avant, toute la merde que t'as fait avant. Et là, petit à petit, j'ai ouvert les yeux Et je me considérais pas comme féministe à cette époque. Pour moi, c'était le cliché de tu desserres ta cause, t'es hystérique. Enfin, c'était tous ces trucs-là. Et je pense qu'on l'a toutes à un moment plus ou moins
ouais,
eu dans la tête.
Non, mais j'avoue, moi aussi. Hein, c'est...
Les personnes autour
on
de
est tellement
toi,
éduquées comme ça, malheureusement.
Et puis t'oses pas dire non.
Que...
Et puis,
ouais. T'es...
C'est vraiment un espèce de système qu'il faut complètement casser.
Mais ça commence dès l'enfance, en fait. Oui. Ça commence, on éduque différemment les enfants, les garçons et les filles. On leur
ça
dit
évolue,
pas les mêmes choses.
Mais nous, notre génération.
Ouais, notre génération, on a été confrontés à ça. Ça évolue peut-être maintenant, les bébés qui naissent maintenant et encore, mais c'est vrai que.
Donc c'est un vrai travail de déconstruction. Et pourquoi j'en parlais pas du coup au début de ce que je faisais? Parce que j'avais besoin, moi, de me déconstruire et de me réapproprier du coup les termes, je sais pas, mais en tout cas de savoir exactement où je me plaçais et ce que j'avais en moi. Et oui, clairement, je suis féministe, tout ce que je fais est plus le féminisme à fond, donc je suis très fière maintenant de le dire que je le suis, mais il y a vraiment ce chemin que j'ai dû faire et j'ai écouté plein d'autres personnes qui aujourd'hui aussi se déclarent féministes et notamment Noémie Delattre que j'adore et qui est un soutien dingue pour The Sorority. Et pareil, j'avais écouté un live d'elle qui disait non, oui, au début non plus, ce mot-là, je ne l'utilisais pas. Mais en fait, si, c'est celui-là. Et s'il faut donner un mot, oui, c'est celui-là. Et ce n'est pas que les femmes qui sont féministes. Les hommes sont mes féministes. En fait, le féminisme, c'est juste ne pas être OK avec tout ce qu'on va faire, subir aux femmes. Et c'est femmes et personnes issues de minorités de genre. C'est juste que ce n'est pas OK. C'est qu'on est toutes et tous égaux et on n'a pas à faire une distinction de comportement vis-à-vis à ces personnes-là. C'est juste pas normal. On est des êtres humains, c'est juste pas normal.
Et pour revenir donc concrètement dans l'application et dans ce que tu as mis en place, donc ça y est, tu avais ton équipe, donc vous étiez 4. Et toi, du coup, vous avez fait une première levée de fonds, c'est ça pour,
donc, c'est des crowdfunding.
C'est des crowdfunding, ouais. Mais pardon.
Ouais, on reste, premier crowdfunding. Pareil, je reste vraiment sur le côté humain et parce que je te disais tout à l'heure, je souhaite mettre toute mon énergie et mon temps aujourd'hui sur les gens qu'on aide. On m'a souvent demandé, vous avez combien d'utilisatrices, d'utilisatrices, du coup, est-ce que vous avez atteint votre objectif? En fait, mon objectif, c'était, s'il y a une personne que j'ai aidée qui vient me voir, qui vient m'écrire et qui me dit merci pour, ça m'a aidé à, j'ai gagné. Ouais. J'ai gagné des centaines de fois. Donc maintenant, on lâche rien et du coup, je ne sais plus quelle était la question.
C'était, comment vous étiez financé au départ? Est-ce que et vous aviez coup, mis voilà. en place, en fait, pour vous lancer?
Et du coup, on fait des crowdfunding. Enfin, ma volonté première, pour l'instant, c'est de faire des crowdfunding parce que je veux donner l'opportunité à toutes et tous de pouvoir nous aider et ne pas être dépendant de personnes qui prendraient des parts, de faire des levées de fonds, de rentrer dans ce mécanisme où ça va me prendre du temps. Enfin, c'est un boulot en soi. Hein. Faire une levée de fonds, c'est pas un crowdfunding, c'est un boulot en soi. Faire une levée de fonds, c'est un boulot en soi. Et je voulais vraiment rester hyper connectée et sur cet aspect humain. Le crowdfunding me permet aussi de parler encore plus de l'application, d'avoir encore plus de personnes qui viennent dedans, qui viennent s'entraider. Et clairement, je le redis, plus on est nombreux sur l'application, plus elle va marcher. Aujourd'hui, on est presque 9000 et on est répartis dans toute la France. C'est-à-dire que à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, qu'on soit en vacances, en déplacement, chez soi ou quoi que ce soit, même nos voisines proches, etc., pour les cas de violence conjugale, on appuie sur ce bouton-là, on a toujours une personne qui est prête à nous aider. Là, on va faire un entraînement, on fait des entraînements tous les mois, on en fait un samedi prochain. Et je sais pas si t'auras sorti, ça va peut-être faire court le
je vais le sortir lundi. Ouais, je vais le sortir
dimanche.
Ça sera
pour la prochaine
lundi,
fois.
Ouais. Mais j'ai envie. Justement, explique-nous comment se passe justement un entraînement.
L'entraînement, en fait, les personnes qui souhaitent participer à l'entraînement me répondent. Donc j'envoie un mail à toutes les utilisatrices ou sur les réseaux sociaux. Les personnes me répondent, elles me disent leur pseudo sur l'app, où elles vont se trouver ce samedi-là et à quelle heure elles souhaitent lancer l'alerte. Donc moi, je me fais mon listing. Et en fait, donc après, je leur envoie les instructions. Les instructions consistent à appuyer sur le bouton d'alerte. Donc déjà, elles vont aussi s'entraîner à appuyer sur le bouton parce qu'on n'a pas forcément envie de déranger. Et tant qu'on n'est pas en danger, on ne va pas appuyer. Et quand on est en danger, on a ce stress d'appuyer. Donc on désacralise en fait le fait d'appuyer. Appuie 2 secondes sur le bouton. Elle laisse tourner le temps que les premiers retours arrivent. Mais ça va très vite. Hein. En moins d'une minute, tu as déjà des dizaines de retours. Et donc l'alerte est envoyée aux 50 personnes autour de soi en ce moment. Avant, c'était les personnes qui étaient dans ton périmètre, mais sur Paris, on était plus de 1000 sur 50 km. Donc maintenant, c'est aux 50 premières personnes. Donc tu attends que les retours arrivent, tu arrêtes l'alerte et après, tu vas échanger avec les personnes. Donc elles peuvent aussi t'appeler si tu as laissé ton numéro de téléphone. Donc pareil, tout est basé sur la confiance. J'invite chaque personne à laisser son numéro de téléphone parce que tu te fais suivre dans la rue, te faire appeler, déjà, ça casse ce qui est en train de se produire, ça peut vraiment te sauver. Donc laisse ton numéro de téléphone et il n'y a aucun comportement malveillant sur l'application, donc et confiance. Et du coup, répondre aux appels et aux messages, remercier d'avoir été là pour la personne et lui rappeler que quoi qu'il arrive, tu seras là pour elle. Et en fait, créer, ça va continuer de solidifier et rendre plus fort ce réseau bienveillant autour de toi. Et en fait, tu construis petit à petit ta communauté comme ça. Tu fais de plus en plus d'échanges, tu demandes à plus en plus de personnes de te rejoindre et tu as vraiment du coup tout ce cocon hyper bienveillant qui se crée autour de toi et qui permet de faire vivre la communauté. Et quoi qu'il arrive, tu sais que si tu appuies sur cette alerte, il y aura quelqu'un. Et donc l'entraînement permet de faire tout ça et de désacraliser du coup tout ce process. L'effet de sidération, tu l'auras beaucoup moins quand tu auras une prochaine alerte parce que tu l'as déjà vécu. En tant que personne qui la reçoit, il faut aussi relire les posts, du coup je le remets à chaque fois, mais le post quoi faire est hyper important parce que ça donne tous les tips d'action à enclencher dès que tu as une alerte qui arrive. Prendre contact avec la personne, lui demander si ça va, regarder sur la map où est-ce qu'elle est, tenter de te rapprocher si tu peux, demander à des personnes autour de toi de venir avec toi pour l'aider. Typiquement les hommes, gardez l'oreille ouverte, vous êtes partout autour de nous, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de vous. Sur l'application, c'est pas grave si vous y êtes pas, parce que dans la vraie vie, c'est là que vous êtes et on a besoin de vous. Donc ne jamais se mettre en danger seul, demander aux personnes de venir, appeler les autorités uniquement si la personne le demande, parce que dans des cas de violence conjugale, ça peut être hyper grave si la police débarque alors que la personne n'était même pas au courant. Donc toujours demander l'accord de la personne. Et voilà, l'entraînement, c'est vraiment comme les pompiers s'entraînent pour agir, comme des footballeurs s'entraînent pour un match. Enfin, on doit s'entraîner en fait pour
être préparé le jour où il se passe quelque chose.
Parce qu'on n'a pas été entraîné à ça, on n'a pas été entraîné à agir, à réagir, à faire toutes ces choses-là. Et c'est tout ce que j'essayais d'identifier quand je bossais sur le projet, c'est pourquoi les agresseurs en fait n'ont pas peur d'agir, ils font leur truc tranquille et nous on réagit pas. Il y a aussi cette question d'entraînement, en fait.
Et pour, on t'en a beaucoup parlé, mais j'aimerais vraiment qu'on pose les choses. Dans quel cas, en fait, on peut utiliser l'application, en fait? Quelle est vraiment l'architecture de l'application et en quoi elle peut nous aider, en fait? Dans quelle situation concrète, pardon, elle peut nous aider? Donc, t'en as parlé, il y a les violences conjugales. Donc, je crois que tu proposes même, il y a des systèmes d'hébergement.
Tu peux proposer de l'aide, du soutien ou une écoute, en fait, sur l'application. Et les personnes qui en recherchent, du coup, via la fonction recherche, peuvent trouver cette aide. Les résultats sortent par ordre de proximité. Donc, une personne hyper proche de toi peut t'apporter cette aide. Et tu peux également proposer un lieu sûr. Donc, pour n'importe qui peut proposer un lieu sûr. Donc, tu as une pièce chez toi ou un logement à disposition, notamment pendant ce confinement où je vous invite vraiment, du coup, à mettre à jour votre application. Et si vous avez un lieu sûr qui peut permettre de mettre en sécurité une personne, l'indiquer dessus. Et du coup, la personne, pareil, va dans sa fonction recherche, va appuyer sur « je recherche un lieu sûr » et va voir tous les lieux sûrs autour d'elle qui vont sortir par ordre de proximité. Donc c'est vraiment ce lien qui existe et c'est une mise en commun. Et juste savoir qu'on n'est pas seul aussi. Tu ouvres la map, tu vois sur la map où sont les personnes. Ouais, typiquement, tu es dans la rue, tu te fais suivre. Déjà, tu peux ouvrir ta map et voir qu'il y a une nana qui est ou une personne qui est à quelques mètres de toi et commencer à la rejoindre. Tu peux prendre contact avec la personne, tu appuies dessus, tu l'envoies un texto, tu l'appelles. Enfin, c'est... On n'est pas loin, vraiment, ce lien, il est là. Et via la technologie, mon idée, c'est utiliser la technologie au profit de l'humain, enfin, pouvoir recréer ce lien. Et donc, pour te répondre, l'application a deux fonctions, sécurité et épanouissement. Donc, sécurité, tu as cette map où tu vois les personnes, tu as la fonction recherche où tu peux trouver des personnes, par exemple, pour tout ce qui est violence conjugale, bien sûr, mais également pour des thèmes. Je vais en reparler pour la partie épanouissement. Par exemple, si tu es entrepreneuse, tu veux lancer ton business, tu tapes entrepreneuse sur la recherche, tu as toutes les personnes qui l'ont rempli dans leur profil. Donc là, dans le profil, tu mets dessus tout ce que tu maîtrises. Et en fait, c'est ce que tu vas pouvoir proposer et tout ce que tu recherches. Du coup, ça va être vraiment là où tu vas faire une demande directe d'information. Et dans la fonction recherche, en fait, tu tapes le mot qui t'intéresse. Donc, je ne sais pas, yoga kundalini, entrepreneuse, tout ce que tu veux. Et en fait, tu as toutes les personnes qui l'ont indiqué dans leur profil qui vont remonter. Et c'est cette partie épanouissement en fait, qui arrive petit à petit. Le reste arrivera sur fil d'actu. Ça fera sûrement d'autres podcasts. Et c'est l'objet aussi du crowdfunding, pouvoir développer cette partie-là. Donc, j'ai vraiment vialé parce que c'était mon idée première. Et la suite, en fait, la partie sécurité, donc ce qu'on a développé au final en premier parce que c'était l'urgence, c'est la partie la plus importante. Donc, tu as cette map où tu vois toutes les personnes autour de toi. Tu as le chat avec qui tu vas pouvoir, avec lequel tu vas pouvoir échanger avec les personnes. Et tu as cette fonction alerte, en fait, où la première fonction, c'est un bouton, donc le gros bouton, où tu appuies 2 secondes et ça envoie l'alerte aux 50 personnes autour de toi. En bas, à gauche, tu as une alarme sonore hyper forte. Par exemple, tu captes pas dans le métro ou tu veux vite que ça s'arrête, quelqu'un est en train de te tripoter. Tu lances cette alarme sonore et en fait, ça va recréer cet effet de sidération. Le bruit va tellement être fort, donc faut bien la remonter, on peut pas la pousser au maximum dès le début, donc pensez bien, appuyez sur le bouton pour la monter au maximum et elle va très fort. Et l'idée, c'est de recréer cet effet de sidération où le bruit hyper fort arrive, du coup tous les regards se retournent vers toi, donc vers la personne qui est en train de t'agresser, et du coup l'action se fige. la personne ne s'attend pas à ce qu'il y ait ça et du coup son cerveau doit se friser pour réfléchir à quoi faire et du coup l'action s'arrête. Donc l'alarme sonore, tu as le message écran où il y a marqué dessus « Je suis en train de me faire agresser, s'il vous plaît, aidez-moi, faites semblant de me connaître. » Appelez le 3117 qui est la sécurité dans les transports en commun, le 17. Pareil, ce qu'il faut, c'est basculer en fait cette responsabilité sur une ou deux personnes. C'est prouvé par plusieurs études. Il ne faut pas dire « aidez-moi ». Il faut cibler une personne ou deux personnes, leur montrer ce message et en fait vraiment transvaser toute cette responsabilité sur ses épaules. Et il va se créer du coup une nouvelle espèce de bulle hyper bizarre, une espèce de moment suspendu où les gens vont vous regarder tous les deux. La personne, elle va stresser à se dire mais qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle me demande et elle sait qu'elle doit agir. L'agresseur va voir le truc, il est de toute façon également dans cette bulle, il ne peut que s'arrêter. Donc on inverse encore l'effet de sidération. Et juste, je prends deux secondes pour expliquer l'effet témoin, parce que je trouve ça hyper important et je pense que plus de personnes le sauront. À chaque fois, je le répète, mais
non, mais il faut répéter, t'as raison.
L'effet témoin, c'est aussi un mécanisme improbable dans notre cerveau qui dit que plus il y a de personnes qui voient une scène de violence ou une scène improbable, moins quelqu'un va agir proportionnellement. Pourquoi ? Parce que tu dis qu'il y a tellement de personnes autour de toi que forcément, c'est trop dangereux, il ne faut pas que j'y aille, donc personne ne bouge. Et en même temps, tu dis qu'il y a tellement de personnes autour de toi qu'il y a forcément une personne plus habilitée que toi à agir, et du coup, tu attends. Et ça fait une scène de viol qui s'est passée à Lille au moment où je commençais à bosser sur l'appli. Une femme se fait violer devant tout le monde, personne ne fait rien. Bah, effet témoin. Et juste, on le saurait, c'est prouvé aussi par des études, si une personne le savait et faisait le premier pas, bah, d'autres personnes suivraient et seraient hyper fiers le soir de dire bah, j'ai aidé cette personne, alors qu'elle n'aurait jamais fait si cette personne n'avait jamais fait le premier pas. Mais on s'en fout en fait. Juste gardez-le en tête, faites le premier pas, vous ne mettez pas en danger à faire un premier pas et le reste suivra. Et la dernière fonction du coup sur l'alerte, c'est les numéros utiles. Donc dessus, vous pouvez appuyer sur le bouton, il y a plein de personnes qui ont peur, en fait ça n'appelle pas directement la police, pas du tout. Juste appuyez sur le bouton, il y a le numéro de la police en cas d'urgence, le 3117 qui est la sécurité dans les transports en commun, le 3919, les numéros pour les sourds et malentendants, numéro pour les enfants, pour les enfants faisant face victimes de violences. Enfin voilà, il y a tous les numéros qui sont là et donc après, cette partie-là sera adaptée au fur et à mesure qu'on va se déployer de pays en pays, parce qu'on ira, quoi qu'il
arrive. Ouais, justement, tes projets pour l'application, là, à court terme, à moyen terme et à long terme.
Donc là, on est en second crowdfunding. Donc le premier nous a permis de faire la base, mais pour l'instant, c'est vraiment notre investissement. Et je fais encore un énorme bisou à l'équipe, parce que sans eux et sans leur temps, on n'y serait pas. Et investissement aussi, perso, j'ai mis mes économies pour l'instant dedans, donc voilà. Le deuxième crowdfunding permet du coup de passer aux étapes suivantes. Donc les étapes suivantes, la première qu'on a validée, c'est l'application qui peut vivre un an de plus. Donc ça, c'est bon. La deuxième, ça va être l'ouverture au moins de... Non, je te dis des bêtises. La deuxième, ça va être l'ouverture aux pays francophones. Donc Belgique, Suisse, Canada, Algérie, Maroc, Tunisie. Les pays qui nous l'ont demandé en premier. Ensuite, ça va être l'ouverture aux moins de 15 ans parce que... Je n'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir au moins de 15 ans, mais je ne peux pas légalement le faire parce qu'il y a des adaptations de textes et techniques à faire. Il y a des documents et autorisations à récupérer et en fait, on ne peut pas faire ça comme ça.
Pour les moins de 15 ans, c'est parce que j'imagine qu'il y a des parents
l'autorisation
qui demandent...
parentale.
Ouais, bien sûr.
Et du coup, c'est aussi du boulot dessus, donc j'ai besoin d'aide pour faire ces développements, mais j'ai qu'une envie, c'est rapidement l'ouvrir parce que oui, les moins de 15 ans vivent des violences à la maison, vivent des violences à l'école, dans la rue, enfin... C'est une priorité, donc aidez-nous. Je veux vraiment, vraiment vite le faire. Ensuite, ça va être l'ouverture d'un accès spécifique aux professionnels de l'accompagnement. Donc typiquement, les juristes, les avocats, les associations, les psychologues, tous les coachs de vie, les coachs de sport, naturopathes, enfin toutes les personnes en fait aidantes qui peuvent proposer leurs services auront un accès dédié sur l'application. Et du coup, on vérifiera les profils, par exemple, on vérifiera les cabis, on vérifiera différents types d'informations qui attesteront bien que ce sont des professionnels de la santé, de l'accompagnement, du bien-être. Et elles auront un accès spécifique, du coup, sur l'app qui permettra de proposer leurs services via ce système de matching directement aux personnes qui le demandent. Et on continuera, du coup, à solidifier ce lien et elles pourront trouver une clientèle patientèle et les personnes en demande pourront trouver des personnes qui correspondent vraiment à leurs besoins et échanger avec elles en one-to-one sur l'application. Ensuite, le palier suivant, c'est le fil d'actualité. Donc, j'ai plein de demandes. J'ai des retours sur l'app, des retours en sur les réseaux de l'application bouge pas, je veux le fil d'actualité. Bah moi aussi, mais c'est aussi beaucoup de boulot. Donc aidez-nous à aller plus loin. C'est des choses de dingue qui arrivent et j'ai qu'une envie, c'est qu'on y aille. Donc allez-y, soutenez-nous. Et le crowdfunding est sur KissKissBankBank et on a jusqu'au 25 novembre du coup 2020 qui est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, donc hyper important. Le palier suivant du coup ça va être l'accès aux professionnels de la sécurité. Typiquement t'es dans un parking, et ben tu lances l'alerte et ces personnes là n'ont pas accès à l'application, c'est vraiment un accès parallèle, et elles vont pouvoir avoir l'alerte qui arrive directement sur leur écran et intervenir au plus vite. Donc pareil, on vérifie que c'est bien des professionnels, on vérifie les profils, on vérifie que les personnes sont, on échange avec elles pour s'assurer que voilà. Et du coup l'idée c'est elles leur apporter un outil supplémentaire au-delà des caméras, des agents qui sont postés partout, etc., dans des bars, des institutions, des écoles, des cinémas, des bibliothèques, enfin partout, dans des parkings, partout où il peut y avoir des agents de sécurité. Elles ont un outil en plus en fait qui leur permet de savoir en temps réel et localiser immédiatement une personne qui serait en danger via juste un bouton, et les personnes du coup qui auraient qui savent qu'il y a ces personnes, ces professionnels derrière, sont rassurées en disant quoi qu'il m'arrive, je sais que oui, j'ai ma communauté, mais en plus j'ai des professionnels qui peuvent intervenir et qui sont là pour ça. Et le dernier, c'est Déploiement Monde. 100 000 euros, c'est notre objectif. On n'est pas du tout, mais on ira. Quoi qu'il arrive, on ira.
J'ai encore deux questions. Vas-y. Avant de passer aux petites questions que je pose toujours à la fin du podcast. C'est donc des questions un petit peu plus finalement personnelles sur ton aventure. Vas-y. Donc tu as déjà fait deux burn-out. Mmh. Et lorsqu'on est en lancement, en phase de lancement, on passe énormément de temps. Jour et nuit sur son projet, donc sur ton application. Comment toi, tu gères cela, donc à titre personnel, donc avec ton mari, tes deux enfants, tes deux bébés, et puis aussi, donc déjà, dans ce point de vue un peu personnel, familial, et puis après, toi, pour te protéger, et pour te protéger d'un troisième burn-out, finalement.
Ben, je l'ai frôlé, parce que de toute façon, comme je disais, c'est cyclique. Enfin, quand tu as fait un burn-out, tu l'as au fond de toi. Donc, si tu ne fais pas attention, tu ne protèges pas, tu vas l'avoir. S'engager dans une aventure entrepreneuriale, du coup, j'avais du sens. J'étais écoutée et reconnue parce que, de toute façon, c'était moi qui m'écoutais, qui faisais ce que j'avais envie. Donc, reconnue, non, mais j'avais cette flamme en moi. Donc, j'éliminais ces parties-là. Mais par contre, je me dévoilais, je me mettais en danger. Je devais trouver des personnes pour m'entourer, des fonds seuls. Et puis, tu dois tout construire de zéro. Donc, au niveau temps, une des caractéristiques aussi du burn-out qu'on a beaucoup en confinement, c'est la barrière entre le perso et le pro, que tu dois bien faire parce que tu bosses chez toi. Du coup, à quel moment ça s'arrête? Arrêter de regarder les mails, arrêter de faire ça, etc. Là, je fais quelque chose où, encore une fois, je fais vivre cet effet sidération. Donc, je me sens hyper mal quand quelqu'un m'écrit à minuit, par exemple, et va me dire j'ai reçu une alerte, qu'est-ce que je fais, de ne pas lui répondre, parce que j'ai créé cet outil pour les aider, mais aussi je te fais vivre ça, donc je leur réponds. Donc la barrière entre le perso et le pro a été explosée en plein vol, donc là-dessus je suis nulle, et il faut vraiment que je commence petit à petit à me discipliner, maintenant que l'application existe, que c'est lancé, qu'il y a de plus en plus de personnes dans la communauté, que les valeurs sont complètement ancrées, qu'il y a ce mouvement qui arrive, enfin, maintenant qu'elle vit en fait toute seule, c'est plus vraiment notre bébé, c'est le bébé de tout le monde. Il faut que j'arrive à un peu m'en détacher et vraiment me protéger dessus, parce que là, ça, c'est une catastrophe. Là,
justement, quels sont tes conseils dont tu as pu commencer à mettre en place? Donc voilà, bien sûr, c'est très dur, mais justement, je sais que tu as des petits conseils, des techniques qui pourraient aider ceux qui nous écoutent pour justement te préserver au maximum de tout ce que tu peux faire.
Grâce à la Naturo, comme je t'ai dit, donc en parallèle de l'app, je me suis inscrite dans l'école de Lisha Briac, donc la boucle est bouclée jusqu'au bout, à l'INH, que j'invite toute personne voulant cheminer dedans à rejoindre. Et en fait, du coup, j'apprends énormément de choses. Donc la Naturo, c'est pas le cliché ou juste l'alimentation. La Naturo, c'est en fait ce que je commençais à mettre en place quand j'ai fait mon second burn-out. Les piliers, c'est l'alimentation, le sport et la partie psychique. Donc je fais de l'hypnose, j'ai une magnétiseuse aussi. Je fais des séances régulièrement, ce qui me permet vraiment de m'apaiser, qui fonctionne bien sur moi. Donc, trouver en fait la discipline qui va, enfin la thérapie qui va t'aider. T'as le sommeil aussi qui est énormément important. Enfin, je vais pas te faire un podcast sur Naturo, mais t'as vraiment plein de techniques de vie à mettre en place.
Ouais. Est-ce surtout, que tu peux nous dire deux trois techniques
Comme je te dis, alimentation. Ouais. Je vais pas aller dans les détails, mais si vous voulez, le livre qui m'a ouvert les yeux dessus, ça a été le fasting. C'est le jeûne intermittent, en fait. Et dès qu'il y a une personne qui me demande déjà comment t'as perdu tout ton poids de seconde grossesse, bah, le jeûne intermittent. Et ça a été un outil hyper puissant pour moi, parce que déjà, c'est devenu une partie de ma vie. Enfin, je ne me dis plus que je fais un fasting, juste c'est ma façon de vivre maintenant. Donc, l'idée du jeûne intermittent, c'est pendant 16 heures, tu fais un jeûne. Et je le dis entre guillemets parce que je le considère même plus comme un jeûne. En gros, tu finis de manger vers 19h et tu vas recommencer le lendemain vers 11h midi. Je ne sais pas si ça fait exactement la 16h, mais en ce moment, c'est ce que je fais et ça me va très bien. Tu bois de l'eau, 1,5 litre d'eau par jour. Et en fait, en faisant ce jeûne intermittent, déjà le matin, tu n'as pas cet épuisement que tu as après avoir pris ton petit déjeuner. Parce que concrètement, ton corps va travailler pour pouvoir intégrer les couches de nourriture que tu vas lui remettre dedans, sachant qu'il n'a pas fini de digérer ce que tu as mangé la veille. Et en fait, tu épuises ton corps en faisant ça. Donc ça, il faut juste vraiment le comprendre et aller dans ce sens-là. Et du coup, le matin, je suis hyper productive. C'est-à-dire que mon corps est à fond, je bois mon eau et j'ai le cerveau qui est complètement libre. Je n'ai pas à me dire que j'ai déjà préparé mon petit-déj, le préparer, le manger, le digérer. Déjà, c'est devenu limite pas une contrainte, mais quand même, quand par exemple, il y a des événements sociaux, genre tu vas faire ton brunch ou ton machin, oui, je vais manger, il n'y a aucun souci dessus, c'est pas, je peux casser le truc quand je veux, si j'ai envie de manger le matin, je vais le faire. Mais juste, je sais qu'en faisant ça, je vais être hyper, hyper focus sur ce que je vais faire. Donc, tu as l'alimentation là-dessus. En sport, j'alterne entre du HIIT, et en fait, c'est des séances de sport hyper courtes, donc je vais faire 15 minutes ou 30 minutes. Qui me suffisent, qui me permettent de bien me déchaîner. Et déjà, au niveau corps, bah, tu le vois, maintenant, je ressens plus du tout à ce que je ressemblais après ma deuxième grossesse. Donc, je suis en forme. Et ça te permet de te décharger. Et tu n'as pas besoin, en fait, de faire plus. C'est prouvé que, dans ce livre, c'est aussi très bien expliqué, faire 15 minutes ou 30 minutes te suffisent. Laisse juste une journée à ton corps pour que les muscles se refassent et que il se restructure et petit à petit intègre ce que tu lui as mis dans la tête. Tu recommences deux jours après, enfin le surlendemain. Et ça te permet vraiment de faire une discipline et de pareil te donner plein d'idées pendant que je fais mes séances. J'ai plein d'idées qui arrivent, j'ai mon niveau de stress qui descend. Ça fonctionne sur moi. Donc vraiment, c'est trouver sa discipline. Il y en a, ça va être le yoga, il y en a, ça va être du pilates. Le pilates, c'est hyper bon aussi. Donc trouver sa discipline et vraiment pas vivre comme une contrainte. En fait, c'est un cadeau que tu te fais pour aller plus loin et pour être vraiment au meilleur de toi-même. Et comme je disais, après... Je conseille vraiment des gens de trouver à tout le monde de trouver sa thérapie, parce que c'est vraiment un accompagnement. C'est pas non plus qu'on est faible, on a cette vision-là. Moi, mon hypnotiseur, c'est un psychiatre. Quand j'ai dit à mes parents, je vois un psychiatre, mais c'était le bad ultime. Mais ça m'aide de dingue. Vraiment, l'hypnose me permet de, si j'identifie un point de blocage complètement,
j'ai jamais testé l'hypnose,
que j'ai identifié, que j'ai identifié comme étant stupide entre guillemets, parce que vraiment, il a pas de raison d'être. Juste, il me bloque pour rien. Tu le sais, tu l'identifies, tu le vois bien, tu le vis et tu dis, mais putain, j'aimerais bien que ça parte, ça sert à rien. Bah, avec l'hypnose, j'arrive à le travailler. On discute, je lui dis, je travaille là-dessus. Il me met en état d'hypnose qui marche très bien sur moi. Et plus t'en fais, plus en fait
t'arrives... À distance, tu fais l'hypnose ?
Non, en réel. Et t'arrives dans cette espèce d'état de conscience modifiée. Et dans cet état-là, bah, tu peux travailler vraiment des sujets de fond. Et quand tu sors d'hypnose, c'est pas parti, c'est avec le temps que ça part petit à petit. Mais en fait, tu as l'impression que le sentiment que ça me fait, c'est que ton souci, en fait, arrive dans une case. C'est rangé, c'est OK. Maintenant, c'est bon, c'est là, c'est OK. Je sais qu'il est là, je le vois, mais ça me pourrit plus la vie. Donc voilà, trouver une thérapie. Et puis après, tu as plein d'autres techniques, des massages, marcher dehors dans la nature, pieds nus dans la rosée du matin, manger vert, bah, ça, c'est l'alimentation. Enfin, plein de choses, en fait, qui te font du bien, fais-les. Juste fais-les et écoute-toi et prends du temps pour toi, c'est hyper important. Il y a le boulot, il y a la famille, les petits, et oui, c'est chaud, le rythme est très chaud, mais pense à toi et prends du temps pour toi, c'est hyper important.
Hyper intéressant. On va finir par une dernière question, et après, aux petites questions que je pose à la fin. Si tu pouvais nous parler d'un moment plus difficile que tu as connu, pas un échec, mais bon, un moment plus difficile que tu as dû surmonter dans ton aventure, entrepreneuriale, donc Jean Vossoretti, et comment tu l'as surmonté?
L'arrivée de l'application sur l'Apple Store. tu sais bien de quoi il s'agit. Ça a été un enfer parce que du coup, on fait une application pour sauver les femmes et personnes issues des minorités de genre dans ce contexte MeToo et hyper chaud. Et du coup, bah, ça fait très peur. Donc, il y a des personnes qui n'osent pas nous répondre, il y a des personnes qui se disent, mais qui ne savent pas qu'il y a derrière une appli, parce que forcément, tu dis, bah, ça peut être tout n'importe qui. Donc,
Donc, il fait peur. Et on a lancé sur les stores Android fin juin. Et iOS, on a fait la demande fin juin. Store Android a été validé en une demi-journée. Et iOS, 2 mois et demi, j'ai eu plus de 10 échanges avec les équipes du coup en Californie sur la console pendant l'été, où en fait ils me reposaient des questions sur le fonctionnement, sur la sécurité. Donc niveau sécurité, encore une fois, je le redis, n'ayez pas peur, on est très loin. Sur tout et n'importe quoi. À la fin, ça n'avait plus de sens. C'est-à-dire qu'on revenait aux questions de départ, c'était décousu. Et après, ça commençait à être des calls. Donc j'ai eu les équipes directement de Californie, donc en anglais. Pour moi c'était improbable. Jamais de ma vie je me suis dit, en lançant ma pauvre app, je vais être en contact direct avec les équipes d'Apple là-bas. Et pareil, je répondais à leurs questions, j'y allais, je donnais tout. Et au bout du cinquième call, je crois, et j'avais que des femmes au téléphone, donc c'était hyper quand même ciblé. Au bout du cinquième call, elle me repose une question et là je lui dis, je vais vous répondre. Parce que j'irai jusqu'au bout, mais est-ce que vous pouvez juste me dire, en fait, j'ai besoin de savoir si tout ce qu'on fait là sert à quelque chose. Parce que concrètement, j'ai un sentiment hyper puissant là, c'est qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui bloque. Je ne fais que de répondre, je tourne en rond. Et en plus, à chaque fois, dès que tu réponds, ça va prendre encore 2 semaines minimum ou 3 semaines pour que quelqu'un étudie ta réponse et après te dise oui ou non.
Ce qui est,
humainement, c'est interminable. Enfin, cette attente, c'est ce qui m'a tué le plus. C'est ne pas savoir, ne plus avoir les billes dans mes mains. Ça se trouve, j'ai fait bosser 3 personnes pour rien. Je peux pas leur dire, mais au fond, on le sait tous les 4, on le sait. Je peux pas lancer qu'à moitié sur un store parce que sinon, celles sur Apple vont me dire, super cool, super pour nous. Et c'est pas logique. En plus, je suis sur Apple. Donc, non, juste non. Il faut que je me mette jusqu'au bout, mais il y a quoi qui bloque? Vraiment, il y a quoi? Et là, la personne a été hyper mal. Et pendant 1 minute, elle m'a fait des phrases, mais. Et à la fin, elle me dit, le sujet est chaud et Apple prend toutes ses précautions. Et là, je fais « Ok, maintenant c'est posé, qu'est-ce que je dois faire ?» Et la solution qu'on a trouvée, ça a été, j'ai dû demander à tous les soutiens qu'on a. Donc quand on va sur le site, y a toutes les personnalités qui nous soutiennent. Et j'ai dû demander à tous ces soutiens de me faire un mail pour attester qui nous soutenait vraiment, qui ou elle nous soutenait vraiment, qu'ils attendaient l'application, à quoi ça allait servir, qu'ils attendaient pour pouvoir en parler à leur communauté et aider un maximum de personnes. Et du coup, on a fait ça. J'ai en plus envoyé tous les témoignages de suite aux entraînements, tous les témoignages que j'avais sur l'appli. Enfin, j'ai eu un gros, gros boost de « maintenant, on y va ». Et je remercie encore toutes ces personnes-là. Et là, ça a été un dimanche en pleine nuit. Ils ont fini par appuyer sur ce bouton et on a lancé. Ouais.
Merci beaucoup. Priscilla, on va finir par des petites questions en vrac. L'idée, c'est que tu y réponds rapidement, un peu sans réfléchir. Ta plus grande peur, si tu en as?
La dernière que j'avais, c'était faire un live et j'en ai fait 2. Merci Odile encore qui m'aura ouvert toutes les portes, mais un live. Live en direct sur Instagram, mais c'est bon, je l'ai dépassé.
C'est passé. Ta routine, on en a parlé. Ta citation ou tes citations préférées?
La bienveillance amène la bienveillance.
Qu'on retrouve beaucoup sur ton compte Instagram. Ton ou tes mentors?
Je crois pas que j'en ai, je pense que je m'inspire de... je pioche partout. Je lis, j'essaie de lire beaucoup de livres et je trouve ça hyper malsain d'avoir un mentor en fait. Déjà, mettre toute cette responsabilité sur quelqu'un, non. Il faut être autonome et piocher partout où on peut et avancer comme ça, petit à petit.
Ton plus grand rêve?
D'aider un maximum de personnes dans le monde et notamment dans des régions, l'Inde, je dis que l'Inde là parce que sinon je pourrais dire tous les pays, en Afrique, partout, il y a tellement des choses, mais... complètement dingue qui sont aussi typiquement qui peuvent me refaire des burn-out quand j'y pense, mais ça me met un feu de dingue. Donc aider un maximum de personnes et aller le plus loin possible.
Les questions que l'on te pose le plus
dans le cadre de l'application?
Pas forcément.
Je sais pas pourquoi j'ai cette question qui arrive là. C'était les journalistes qui me demandaient à chaque fois à combien d'utilisatrices t'es contente, ce qui n'a pas de sens pour moi. Et en plus, les personnes qui sont sur l'appli, aujourd'hui je dis 9000, mais en vrai, il y a 3 fois plus de personnes qui ont fait la demande parce qu'il y a des hommes cis qui ont demandé, des personnes qui n'ont pas mis leur pièce d'identité. Donc ça n'a aucun sens. Cette notion de chiffre, en fait, qui est vachement ancrée dans notre société, patriarcale, je vais dire le mot, de performance de machin, n'a aucun sens. En fait, on fait de l'humain. Donc, voilà, à combien je suis contente? Je suis contente parce qu'on aide. Voilà.
si de tout ce que tu as appris jusqu'à présent dans ta courte vie, tu n'avais à retenir qu'une chose?
je vais dire une phrase bateau, mais c'est vrai, profiter de l'instant présent. Je suis nulle pour le faire,
c'est très dur.
Il faut tellement le faire. Les choses partent tellement vite. Cette appli, je sais pas combien de temps elle va durer, j'essaierai plus longtemps, mais elle va partir. Tes enfants vont grandir vite. Tu peux te faire démonter par une voiture en traversant la route. Juste kiffer l'instant présent, quoi. Et il peut se passer tellement de choses juste dans l'instant présent que kiffer, quoi.
Exactement. Et ma question rituelle du podcast, ta définition du risque et les risques nécessaires selon toi pour vivre pleinement ?
Le risque pour moi, c'est aller au-delà de ses peurs. C'est vraiment, c'est cette barrière qu'il y a. En fait, limite, il faudrait le vivre comme un jeu à « ok, où sont mes barrières ?» qui sont en accord en fait avec le projecta et ok là c'est mon objectif, je vais la dépasser. Et petit à petit, en fait c'est comme des sas que tu passes comme dans un jeu vidéo, c'est t'as passé ce level là, bah tu vas au suivant. Et la suite de ta question c'était ?
Et les risques nécessaires pour vivre pleinement ?
Les risques nécessaires, avancer et continuer d'apprendre. Je me suis rendu compte aussi avec ce second burn-out qu'en étant employée, j'avais arrêté de lire, j'avais arrêté de m'intéresser à des choses, j'avais arrêté d'apprendre et ma vie tournait en fait. J'utilisais mon cerveau que pour faire ces tâches-là et je ne l'utilisais plus pour continuer d'avancer, reprendre des études sur n'importe quel sujet qui nous font du bien. Mais allez-y, ça, c'est tellement une énergie, quoi. C'est une énergie vitale que tu réactives en toi. Et j'avais 31 ans, j'étais déjà en train de me tuer de l'intérieur et je trouve qu'on a vraiment oublié ça, de relève la tête de l'eau et fais tes kiffs et il n'y a pas que le boulot, en fait. Tu peux te faire plein de choses à côté et te lancer dans une aventure entrepreneuriale en parallèle sans forcément quitter ton boulot. Enfin, vraiment explorer, vivre, apprendre un maximum.
Merci beaucoup Priscilla.
Merci à toi Laura.
Vous venez d'écouter l'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, Lo from Paris, ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.